Matière à penser, Frédéric Worms.
Matière à penser, cette semaine autour de philosophes dans la cité, d'engagements nouveaux dans la cité. Et notre première rencontre sera avec Michela Marzano. Matière à penser, les philosophes dans la cité, ce soir avec Michela Marzano, qui est professeure à l'Université de Paris 5 en France, qui a été députée au Parlement italien pendant une mandature pour le Parti démocrate, si je ne me trompe pas, et qui, entre autres interventions publiques et œuvres, vient également de publier un roman, L'amour qui me reste. Bonsoir Michela Marzano.
Bonsoir Frédéric Worms.
Merci infiniment d'être là. J'ai déjà cité quelques-uns de vos modes d'intervention. Je les ai pas tous cités et je sais que vous êtes un peu sous pression au moment même où on commence cette discussion qui va pourtant être très calme parce que vous êtes sollicité pour une intervention publique. Est-ce que vous pouvez nous raconter le contexte de cette sollicitation et nous dire si pour vous elle incarne un mode d'engagement contemporain, nécessaire, peut-être parfois difficile du philosophe dans la cité, comme je dis de manière un peu vague, mais on va préciser avec vous.
Oui. Bah alors, moi, depuis une dizaine d'années, en fait, pour être vraiment précis, depuis 2009, donc c'est depuis 9 ans, j'écris régulièrement pour La Repubblica, qui est un journal italien. Bon, ça correspond, c'est à peu près comme Le Monde, pour donner
un grand quotidien, quand
un
même.
Un grand quotidien, qui, dès qu'il y a des questions pour lesquelles je suis censée avoir une expertise, me demande un commentaire. Et il arrive souvent que même à la dernière minute, on demande d'écrire un commentaire quand il arrive des faits, comme par exemple la dernière fois, ça a été par rapport à la décision de la Cour de cassation qui a demandé au Parlement italien de colmbler un vide législatif parce que en Italie, nous n'avons pas encore une loi qui définit clairement l'attitude des médecins vis-à-vis du fin de vie. La fin de vie n'est pas normée, comme par exemple en France, il n'y a pas quelque chose qui ressemble à la loi Leonetti. Et du coup, il y a quelqu'un, c'est-à-dire un militant qui a aidé une personne qui voulait terminer de souffrir parce que c'était quelqu'un en fin de vie à pouvoir terminer sa vie en l'accompagnant en Suisse. Du coup, il y a eu un procès. Pendant les procès, on a décidé d'interroger la Cour constitutionnelle pour savoir comment juger cette affaire, étant donné qu'il n'y a pas une loi, une norme qui cadre les cas spécifiques. Et la Cour constitutionnelle a demandé au législateur de combler les vides.
Et là, donc, La Repubblica, qui veut commenter cette situation, fait appel à vous, Michela Marzano, en tant qu'experte, parce que votre domaine de réflexion en philosophie, c'est sur quoi vous enseignez et vous avez écrit, entre autres sujets, mais malgré tout, l'un des foyers, c'est autour du corps, et depuis votre travail sur le corps, autour des questions qu'on appelle de bioéthique.
L'éthique appliquée,
sur laquelle vous avez écrit un petit livre, d'ailleurs, une synthèse sur l'éthique appliquée. Et là, donc, vous avez travaillé sur le genre, sur les relations amoureuses. Peut-être on fera d'ailleurs le lien avec votre roman. Et puis, l'euthanasie, donc, ça rentre pour vous dans l'éthique appliquée. Donc, on vous sollicite en tant que spécialiste d'éthique appliquée.
Oui, on me sollicite en tant que professeur qui travaille dans les domaines de l'éthique appliquée.
Donc, alors, comment est-ce que vous prenez les régimes d'écriture, Michela Marzano? Je me souviens d'avoir fait un exercice avec mes étudiants en leur disant, voilà, votre mémoire de master que vous écrivez pour un professeur, pour un public de recherche. Imaginez que vous ayez à en faire un cours pour des étudiants ou un article pour la presse, justement, en disant, voilà, ça c'est important, mais en parlant au public. Est-ce que vous écrivez de la même façon quand vous êtes dans un colloque universitaire ou quand vous écrivez pour La Repubblica?
Alors non, j'écris des façons différentes. D'ailleurs, j'ai mis du temps pour apprendre. Non, c'est pas du tout évident. C'est-à-dire, moi, j'ai jargonné souvent. Ou si je ne jargonnais pas, j'employais un langage qui était compréhensible et lisible pour quelqu'un qui était déjà dedans, enfin, dans les questions. Donc, mais justement, j'ai dû apprendre à utiliser un langage capable de faire comprendre, même à qui ne connaît absolument rien de la question, quels sont les enjeux qu'il y a derrière.
Et alors, comment est-ce qu'on fait, par exemple? Est-ce qu'il faut à la fois quand même expliquer, mais en même temps, vous prenez position malgré tout?
Prends position parce qu'il y a des articles, heureusement. Enfin, moi, c'est un commentaire à côté d'articles qui décrivent les faits. Donc, d'accord. Moi, je ne dois pas décrire les faits, mais à partir du fait, voir quels sont les principes moraux, par exemple, qui sont en jeu. Mmh. Et donc, dans les cas spécifiques de la fin de vie, il s'agit d'essayer de montrer l'importance de l'autonomie personnelle. Les principes d'autonomie, quelle est sa place, la place du consentement, pour quelles raisons il faut sortir du paternalisme médical. médicale, mais évidemment, il faut bien expliquer qu'est-ce qu'on entend par paternalisme, qu'est-ce qu'on entend par autonomie, des façons à la fois simples, mais pas simplistes, parce que c'est ça, en fait, après les problèmes.
Mais alors, pour vous, Michela Marzano, par exemple, là, reprenons l'exemple. Il y a une situation où une personne, dans une maladie incurable, j'imagine, donc il y a quand même certains contextes, demande à interrompre le traitement.
Oui.
Et là, vous dites, l'importance, philosophiquement, quelle que soit la position qu'on prend, c'est de voir que dans cette demande, il y va de la liberté, finalement, quand vous dites l'autonomie.
Il y va de la subjectivité. C'est-à-dire, on ne peut pas faire comme si la personne en face de nous n'était pas en train de dire, de demander, de désirer quelque chose. Parce que sinon, on retombe dans une situation où on décide à la place des autres. Et donc, finalement, on revient à avant-Kant.
Mais en même temps, j'imagine aussi, pour travailler un peu sur ces domaines, que ouais. Vous devez expliquer que c'est pris dans une forme de contradiction. Parce que d'un autre côté, le paternalisme médical, qui est un abus, est appuyé aussi sur la volonté de soigner, sur
absolument.
Une forme de bienveillance. Donc, il n'y a pas seulement une contradiction entre un bien et un mal, mais parfois entre deux biens, entre deux régimes.
Absolument. D'ailleurs, là, vous êtes plus expert que moi, mais en tout cas, il y a effectivement un tiraillement entre, d'une part, le principe de bienfaisance, faire le bien, et d'autre part, la question de la prise en compte de la subjectivité individuelle. Mais par exemple, en termes juridiques, étant donné que là, c'est la Cour constitutionnelle qui demande au Parlement de légiférer en France. Moi, je trouve que la loi actuelle, la
oui,
loi Leonetti...
Oui, voilà, donc en Italie, là, on vous a sollicité, pas seulement pour la morale de l'histoire, si j'ose dire, mais aussi parce qu'il y avait un vide juridique. C'est ça que vous êtes en train de dire.
En fait, il y a un vide juridique. Si c'était comme en France, avec la loi Leonetti, alors on peut être plus ou moins d'accord, etc., mais il y a un texte qui est très clair, où quand on se trouve face à une maladie incurable et il n'y a pas d'autre façon de soulager les souffrances, eh ben, on a la possibilité d'administrer des médicaments, même s'il y a l'effet secondaire qui est celui d'entraîner la mort.
Voilà, ce qui est très important, voilà. C'est qu'on considère en France que on ne cherche pas à entraîner la mort, mais on
soulager la douleur.
Mais la mort elle peut être un effet indirect absolument. D'une intention qui reste de soin.
Absolument. Bah, c'est le double effet d'Aristote et de saint Thomas, et donc on retombe sur les pieds, c'est-à-dire c'est la question de la philosophie morale qui s'y repose.
La question de la philosophie morale, donc en deux temps, on considère qu'il y a un effet souhaité et que c'est de cela qu'on est responsable et que le deuxième effet indirect n'est pas le but. Donc personne ne sous-entend ici qu'il y a l'intention de donner la mort en France. Mais revenons sur cette question de la loi. Vous trouvez, Michela Marzano, et c'est un point important, qu'il faut qu'il y ait des lois de bioéthique, finalement. Il faut le rôle du législateur, vous qui êtes philosophe, mais qui avez été aussi député, c'est d'aménager ces contradictions pour que la société trouve un chemin, finalement.
Bah, disons que moi, je pense qu'il faut régler ces questions de façon générale, afin qu'il n'y ait pas un traitement différent des différents patients selon qu'il arrive dans un hôpital plutôt que dans un autre. Donc il faut un cadre normatif qui ne doit pas être...
Un cadre républicain, finalement.
Face auquel, après, on peut prendre une position et dire « je suis d'accord avec telle loi, je ne suis pas d'accord avec telle autre loi », parce qu'après, c'est toujours important de distinguer ce qui relève du droit de ce qui relève de la morale et de la philosophie morale. C'est justement parce qu'il y a une différence que moi, en tant que philosophe, je peux me permettre de critiquer une loi et dire « c'est une loi qui ne correspond pas complètement à une morale qui s'effondre sur un certain nombre de valeurs comme l'autonomie, la dignité, etc. »
Donc là, ce que vous allez dire dans votre chronique, je ne vais pas la faire à votre place, Michela Marzano, mais est-ce que vous allez dire, par exemple, vous allez pousser, essayer d'inviter à ce qu'il y ait une réflexion législative en Italie sur les questions de fin de vie? Est-ce que vous pensez qu'il faut affronter ce sujet dans le débat public, comme
oui,
on le fait en France?
Moi, je pense qu'il faut absolument affronter ces thèmes. Mais il faut les faire aussi en sachant de quoi on parle. Parce que le problème, c'est que souvent, dans les débats qui touchent les domaines de l'éthique, n'importe qui croit pouvoir dire n'importe quoi parce que la morale, ça nous concerne. Alors moi, je dis toujours, désolé, bien sûr, chacun a sa propre morale, mais la philosophie morale, elle se structure autour d'un certain nombre de théories, de valeurs. Et si nous avançons une position, encore faudrait-il que nous soyons capables de la justifier sur la base d'un certain nombre de valeurs qui doivent être explicitées, éclaircies et posées.
Et vous dites ça, Michela Marzano, ça m'intéresse vraiment beaucoup, je trouve ça très important. Vous dites ça pas seulement par souci pédagogique, c'est aussi un moyen d'éviter la guerre. Parce que si on dit « je pense que il faut faire ou pas le faire », on est dans le désaccord direct. Déjà, si on dit « je pense que parce que », par exemple, je suis pour qu'on fasse le geste parce qu'il s'agit de la liberté, ou je suis contre parce qu'il s'agit du soin. Déjà, pour vous, ce « parce que » est un moment très important, c'est-à-dire que c'est un moment d'argumentation.
C'est le moment fondamental. L'argumentation et la justification des décisions que l'on prend ou des décisions que l'on envisage de prendre, c'est la base même de ce que j'essaie d'ailleurs, par ailleurs d'apprendre à mes étudiants. Moi, je leur dis toujours, je ne vous apprends pas à penser d'une certaine façon. La chose pour moi qui est très importante, c'est de vous apprendre à expliquer à quelqu'un qui vous demande pourquoi les raisons pour lesquelles vous avez dit que X, Y ou Z est juste ou pas juste. Donc les pourquoi, c'est l'argumentation, les instruments de ce qui fait la base même après de la philosophie morale, de l'éthique.
Et pour vous, c'est vraiment le rôle du philosophe aussi dans son engagement public. C'est pas seulement dans un enseignement théorique. Vous êtes donc professeur à l'université, mais vous intervenez dans des journaux. Là déjà, vous considérez, quand vous êtes Michaela Marzano, chroniqueuse à La Repubblica, ou sollicitée en urgence, vous êtes plus côté politique ou plus côté pédagogique, ou les deux? Ou c'est entre les deux?
C'est entre les deux ou les deux en même temps, parce qu'il faut pouvoir faire passer son message. Ça ne passe pas toujours, hein, parce que les nombres de fois où j'ai écrit des papiers et après on m'a écrit des mails en me disant « Mais alors, au nom de quoi vous parlez ?» etc.
Donc on vous confond avec une militante?
Non, on me confond avec une journaliste. Quelqu'un qui écrit dans les journaux est forcément une journaliste qui n'a pas droit d'avancer ou de justifier une certaine position. Il n'y a que les faits qui comptent, parce que nous sommes aussi à une époque incroyable, hein, où quelqu'un qui écrit dans un journal est illégitime parce qu'il écrit sur un support, parce qu'en même temps il ne se confronte pas à tout ce qui relève de la blogosphère, et donc les réseaux sociaux, etc. Donc c'est un moment qui est très compliqué.
Donc vous trouvez que finalement, c'est encore plus grave qu'on pourrait penser, que le fait d'écrire dans un journal, bien loin de vous donner une légitimité, dans l'état du débat public aujourd'hui,
ça a tendance à enlever de la légitimité. Outre les faits que ça m'arrive souvent, alors ça c'est quelque chose qui est très pénible pour moi, qui sait que je travaille et que je vis en France me répond par mail « Rentrez-vous en France, ne vous mêlez pas des affaires qui concernent l'Italie. » Et ça, je prends ça très mal, parce que du coup, pour moi, étant une blessure à les manques d'Italie, je considère que c'est quelque chose que je perds mes moyens argumentatifs. Je prends ça comme...
C'est comme si on vous attaquait personnellement.
Oui, absolument.
Parce que, au fond, tout ce qui pourrait faire la singularité, la légitimité de votre propos, c'est-à-dire une compétence philosophique, un cadre reconnu, un journal qui vient vous chercher, mais dans un cadre bon, et puis une expérience internationale, tout ça, au lieu d'être des légitimités, dans le débat politique italien d'aujourd'hui, ça devient une faiblesse presque. On vous le retourne comme...
Mais si vous avez les nombres de fois où, quand j'étais députée, on me disait « Mais c'est quand que vous rentrez dans l'autre pays, là, où vous vivez, vous travaillez ? Laissez-nous tranquilles. » Alors, évidemment, c'était en général...
C'est vos adversaires qui disaient ça.
C'est des adversaires, oui, ou beaucoup de gens, parce que vous savez, désormais... je crois que c'est la même chose en France aussi, mais en Italie, avec la montée aux extrêmes du populisme les plus manichéens, les moins argumentés, désormais la parole est devenue quelque chose qui a du poids si et seulement si elle blesse. C'est-à-dire, au lieu d'argumenter, il faut insulter. Donc c'est la performativité du langage qui fait la force de l'argument. C'est qu'il y a un paradoxe, parce que du coup, on nous apprend, et nous apprenons aussi à nos étudiants, que la force de la parole est liée à sa capacité à convaincre et non pas à blesser ou à faire du mal. En Italie, c'est devenu « je parle, j'écris, je t'ai fait mal et de toute façon, ton argument ne me touche pas parce que ça ne m'intéresse pas à argumenter ».
Ce que vous décrivez est quand même très, très effrayant, Michaela Marzano. Comment est-ce qu'on peut répondre à ça, effectivement? Quelles sont les armes quand on ne veut pas se battre? Quelles sont les armes quand on ne veut pas insulter? Est-ce que, quand même, malgré tout, bon, il y a les gens qui insultent, mais est-ce qu'il n'y a pas encore une opinion publique qui fait la part des choses, même si aujourd'hui elle est un peu minoritaire, silencieuse, un peu écrasée par une violence dominante de l'insulte,
alors,
que vous décrivez.
Très écrasée et très minoritaire. Hein. Si vous pensez que désormais les gouvernements actuels, donc Ligue 5 étoiles, est soutenu par 60% des Italiens, d'accord, il y a encore 40%, et de ces 40%, il y en a certains qui ne s'intéressent pas du tout à la politique. Donc c'est un gouvernement qui est un gouvernement populiste, fortement populiste. Aujourd'hui, ça a été voté une loi sur la légitime défense. Or, qu'est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu'elle dit cette loi?
Dites-le nous, Michaela Marzano.
Qui, pour se défendre, puisse avoir des armes, donc on revient un peu au Far West à l'américaine, sans se rendre compte qu'il y a la proportionnalité de la réaction. Mais je me souviens, c'était un débat que j'avais eu, on avait eu quand j'étais députée, et quand face à la Ligue...
Déjà sur la légitime défense,
sauf qu'à l'époque c'était le Parti démocrate qui avait la majorité, donc la loi n'est pas passée, mais les intervenants à l'époque de la Ligue, quand je disais, mais attendez, la proportionnalité de la réaction, il te répondait, mais quelle proportionnalité? Si quelqu'un rentre chez toi, il faut bien se défendre. Oui, mais on ne peut pas se défendre en attaquant et en tuant. Donc l'idée qu'il y ait une proportionnalité et que la réaction doit être mesurée par rapport à ce que l'on subit, ne rentre même pas dans la possibilité d'argumenter. Alors,
dans l'idée de légitime défense, Michaela Marzano, il y a des principes. Effectivement, on ne peut tuer que si on est en danger soi-même d'être tué. C'est la proportion dont vous parlez. Et il y a aussi, même peut-être encore plus fondamentalement, il y a l'idée d'accepter d'être jugé. Après coup, je prends le risque de juger de cette proportionnalité. Je vois quelqu'un rentrer. Peut-être que c'était quelqu'un qui voulait même me voler quelque chose, mais de là à le tuer, c'est autre chose. Est-ce que l'idée d'accepter la loi est menacée en Italie? Est-ce que l'idée d'accepter de passer en jugement? On fait une loi sur la légitime défense. Est-ce que c'est pour dire tout est permis ou est-ce que c'est pour dire, justement, la légitime défense doit passer par la loi? Est-ce qu'il n'y a pas encore un peu au moins de respect de la loi?
Oui et non, c'est-à-dire, oui, il faut avoir une nouvelle norme sur la légitime défense pour éviter de se retrouver face à un juge et devoir engager un avocat. Donc c'est toujours un peu ça la dynamique.
C'est une loi qui veut éviter la loi finalement, éviter le jugement.
Éviter les jugements, donc vous l'avez dit parfaitement, c'est effectivement donner la possibilité de surréagir. Donc il n'y a pas plus l'idée de je réfléchis, j'essaie de voir et surtout j'évalue quelles sont les conséquences de mon action, parce que c'est ça aussi le problème, quelles vont être les conséquences de mon geste. Moi j'ai dit toujours, chacun de nous, ça je l'ai dit à mes étudiants, chacun de nous est un agent moral. Nous devons répondre.
Donc on doit donner des raisons et peser des conséquences.
Absolument.
Il n'y a pas juste
Absolument.
Des opinions et des actions dans l'urgence, dans le stimulus immédiat qui affecte nos corps, nos angoisses, nos peurs.
Et c'est exactement ça, c'est-à-dire savoir assumer la conséquence de ses actions et de ses conséquences, même si parfois il y a des conséquences qu'on ne peut pas maîtriser. Et quand on nous demande les pourquoi de nos gestes, donner des arguments capables de justifier ce que nous avons fait ou ce que nous allons faire.
Et vous pensez que ce qui semble finalement assez minimal dans ce que vous venez de dire, c'est fragilisé aujourd'hui en Italie et en Europe.
Fragilité même en France. Hein.
Bien sûr, mais je voudrais réfléchir au fond aux raisons de cette fragilisation, puisque nous on assume de chercher des raisons, quand même assumons. Disons, on ne va pas prendre les gens pour des idiots, on ne va pas insulter ceux qui sont pris dans cette logique.
Oui, mais d'ailleurs, c'est pas moi, je jette pas la pierre, c'est-à-dire les problèmes face auxquels on se retrouve, c'est à une perte progressive, mais qui a commencé il y a très 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 longtemps, des capacités à se confronter, à accepter les points de vue de l'autre. Nous avons aujourd'hui un énorme problème avec l'altérité, tout ce qui est différent de nous, ça nous pose un problème. Et donc, mais c'est pas quelque chose de nouveau, c'est-à-dire c'est quelque chose qui s'est construit ou déconstruit au fur et à mesure que les années ont passé. Alors, en Italie, commençons à parler des années 80. Dans les années 80, avec la télépoubelle, comme on a tendance à dire, et des émissions qui étaient là, prêtes à décerveler les écouteurs, mais on a aussi des très belles déclarations, si je me souviens pas, de Patrick Lahaye, qui était président à l'époque
De TF1, la raison d'être des émissions, c'était la publicité,
absolument.
Et non pas l'inverse, finalement.
Absolument.
Est-ce que
30 ans après, on recueille les résultats de ça.
Est-ce que vous pensez, effectivement, je pense, comme vous, que cet état du débat public est bien sûr lié à l'état des médias du débat public? Est-ce que vous pensez qu'il faudrait, Michaela Marzano, en France comme en Italie, des débats, justement, c'est-à-dire des vraies émissions où chacun argumente pour ou contre? Est-ce que vous-même, vous passez à la télévision en Italie, parfois?
Oui et non, parce que là, maintenant, je suis surtout en France. De temps en temps, quand je rentre en Italie, je participe à des émissions. Il y en a des bons.
Il y a encore
une excellente émission sur la 7. Donc, il y a aussi des débats qui sont sont bien faits, un peu comme en France, mais comme en France,
avec le pour,
il y a aussi
le contre, des gens modérés, en tout cas qui expliquent leur position.
Voilà. En même temps, en France aussi, j'ai participé récemment à une émission. Je ne donnerai pas les noms de cette émission parce que c'est pas les buts, où c'était impossible, mais impossible à argumenter. Donc, c'était sur une question liée au genre. Et pendant cette émission, chacun donnait son point de vue comme si on pouvait tout dire. Mmh. Et c'est navrant parce que du coup, je me suis dit, quand je suis rentrée chez moi, j'ai dit à mon mari, eh ben, écoute, désormais, la France est devenue comme l'Italie. On est en train de s'italianiser en France aussi. On aurait dit un débat italien d'il y a 10 ans.
J'espère que l'Italie pourra nous donner d'autres modèles. En tout cas, vous nous parlez de ce qui est peut-être le plus mauvais exemple, mais vous avez aussi apporté pour notre émission un autre type de référence italienne et musicale.
Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge il solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai? Conosci me, la mia lealtà, tu sai che oggi morirei per onestà. Conosci me, il nome mio, tu sola sai se è vero o no che credo in Dio. Che ne sai tu di un campo di grano, poesia di un amore profano, la paura d'essere preso per mano, che ne sai? L'amore mio, che ne sai di un ragazzo, è roccia ormai, che mostrava tutte quante le sue sfide, il tempo e si repento e tu lo sai, sì tu lo sai, davanti a me. C'è un'altra vita, la nostra è già finita, e nuove notti e nuovi giorni, cara, vai o torni con me, davanti a te ci sono io.
Matière à penser, Frédéric Worms.
Matière à penser, toujours dans cette première conversation de la semaine sur les philosophes dans la cité, toujours avec Michela Marzano, qui a été députée italienne, qui écrit dans les journaux en Italie notamment, et qui est professeure à l'université en France. Et Michela Marzano, vous avez proposé cette chanson que vous avez accompagnée de votre voix, de votre corps. J'aurais aimé qu'on puisse entendre, en fait, votre voix doublant celle de Lucio Battisti. Est-ce que vous pouvez nous dire en un mot l'histoire de cette chanson pour vous et comment elle représente au fond une réponse à d'autres paroles qui sont plus violentes dans la sphère publique?
Alors, disons que c'est un auteur, un chanteur, un auteur que j'aime beaucoup. C'est son 20e anniversaire. Il est mort en 98.
Le 20e anniversaire
de sa mort. Et cette chanson en particulier s'appelle Pensieri et paroles. Pensée et paroles, justement. Il y a de la pensée, il y a une parole. Et ça raconte la fin d'une histoire d'amour. Il est en train de chanter à la femme qui s'en va tout son regret et sa souffrance, étant donné qu'elle était la seule à le connaître au point de savoir si c'était vrai ou pas qu'il croyait en Dieu. Et je trouve qu'il y a des...
Il croyait en Dieu ou pas d'après...
Ah bah ça, c'est pas, il y a qu'elle.
Donc l'amour qui s'en va est la seule personne qui détient son secret.
Voilà, absolument. Et je trouve
et elle s'en va.
Elle s'en va. Donc c'est pour ça qu'il y a
des pensées,
il y a
des paroles. Il reste seul avec son secret.
Il reste seul avec son secret en essayant de demander pardon, mais hélas, c'est trop tard. Donc c'est une histoire dramatique, mais moi j'adore ce genre d'histoire.
Mais Michela Marzano, justement, le public français va être surpris parce qu'on vous connaît à travers des travaux très engagés, d'éthique, de politique, notamment justement sur l'amour. Votre dernier livre de philosophie, votre dernier essai théorique, disons, portait sur ce qu'on appelle le genre et vous vouliez dédramatiser, rationaliser, argumenter. Ça s'appelait néanmoins, d'un titre assez engagé, « Papa, maman, le genre et moi ». Et puis là, voilà, la parole telle que vous venez de la décrire, peut-être elle est plus proche de votre nouveau genre d'écriture. Vous venez de publier un roman que je n'ai pas eu le temps de lire, hein, L'amour qui me reste. Ce roman, cette chanson, ça a à voir. Enfin, vous, finalement, quelqu'un qui parle du genre peut aussi parler d'amour. On oppose souvent les deux. C'est-à-dire, on dit le genre, ce sont des déconstructeurs de l'amour. Mais en fait, vous, vous parlez du genre et vous parlez d'amour.
Alors, oui. En même temps, c'est un peu plus compliqué parce que dans ces romans, bien sûr, il y a la question de l'amour, mais c'est l'amour maternel. C'est une
l'amour
mère.
Qui me reste.
L'amour qui me reste, c'est-à-dire. Alors, c'est une histoire qui commence de façon dramatique. Et je vais très vite expliquer aussi le pourquoi.
Expliquez-le
si vous me le permettez.
Lentement. Prenez le temps que vous voulez.
C'est l'histoire qui démarre avec la mort de Giada et une mère qui reçoit un coup de fil.
La mort donc
d'une fille de 25 ans qui meurt, qui se suicide, et la mère qui reçoit un coup de fil par l'hôpital, sauf que quand la mère arrive à l'hôpital, c'est trop tard, sa fille vient de mourir. Donc le point de départ est un point de départ dramatique et tous les romans est un dialogue
c'est
entre cette
une,
mère.
C'est presque une des tragédies les pires qu'on puisse imaginer.
C'est la pire, je pense, chose qui puisse arriver à quelqu'un. Et quand j'ai dit qu'il y a quelque chose d'autobiographique, c'est parce que ceux qui ont lu Légère comme un papillon, qui est un livre où je raconte mon histoire, celle de mon symptôme, mon anorexie, mes 20 ans de psychanalyse, savent qu'en 1997, donc c'est il y a 21 ans, j'ai fait une tentative de suicide qui a raté parce qu'après 48 heures de coma, je me suis réveillée, mais les coups de fil qui a reçu ma mère ce soir-là, c'est
elle avait
exactement
eu le coup de téléphone.
C'est exactement le coup de téléphone qu'il reçoit Daria. Et moi, pendant longtemps, je me suis posé la question de savoir mais comment aurait fait ma mère? Comment aurait-elle réagi si ce jour de septembre, j'étais partie moi aussi pour toujours? Et à distance de 20 ans, j'ai essayé d'écrire le livre que j'aurais voulu que ma mère lise. En sachant qu'il n'y a pas de terme pour qualifier un parent qui vient de perdre un enfant.
Ça en sachant que vous étiez capable, vous, même si vous aviez à un moment été poussé à lui faire courir ce risque, de comprendre le sens de cette tragédie. C'est-à-dire que vous n'êtes pas, au contraire, cette expérience-là, votre imagination morale, parce qu'on peut parler d'imagination morale,
permet de
l'aborder.
J'espère d'avoir été capable, parce que c'est écrit à la première personne par cette mère. Donc je suis devenue cette mère, je suis devenue ma mère, en sachant que la chose que j'ai considérée, même d'un point de vue philosophique, important, c'est le manque d'un terme. Quand on perd un parent, on est orphelin. Quand on perd un conjoint, un mari, une femme, on est veuf, veuve. Quand on perd un enfant, il n'y a pas de terme. Et y a
c'est
pas,
indicible,
c'est
finalement.
Indicible.
L'indicible passe par l'absence de mots dans les langues.
Dans aucune langue, il n'y en a. Il n'y en a pas en français, en italien. Enfin, il y a juste une racine indo-européenne, Vilo Ahmed, qui littéralement signifie contre l'ordre des choses. C'est contre l'ordre des choses de perdre un enfant. Du coup, dans ces romans, on ne cherche pas le mot, mais on cherche les mots pour traverser les vides, pour traverser les deuils et pour trouver la force de comprendre ce qui nous reste. Et qu'est-ce qui nous reste? Ben, l'amour. Mais je ne vais pas tout raconter parce que c'est centré sur les rapports mère-fille.
Il ne faut pas tout raconter, Michaela Marzano, mais peut-être nouer un petit peu ce que vous venez de décrire très fortement, l'autobiographie, le roman et la philosophie. Je parlais d'imagination morale. Il y a un très beau texte de Paul Ricoeur où il parle du deuil anticipé que les autres feront de nous comme étant dans la structure même de notre imagination. Qui n'a pas imaginé l'éventualité de sa propre disparition et surtout le type de sentiment que les autres ressentiront? Est-ce qu'il pleurera? Est-ce qu'il s'en fichera? Est-ce qu'ils seront émus? Combien de personnes y aura autour de ma disparition? Est-ce que pour vous c'est un ressort vital, cette imagination du deuil, vital, je le dis bien, c'est-à-dire pas seulement mortel, une façon aussi d'affronter cette question? Il y a toujours de l'imagination morale, il y a toujours de la morale pour vous.
Il y a toujours de l'imagination, il y a toujours de la morale. Et puis, il y a aussi un autre élément. Tout à l'heure, vous m'avez posé la question de savoir s'il y avait des écritures différentes. Et là, c'est encore une autre écriture. Parce
le roman, vous voulez dire?
Oui, l'écriture littéraire. Je me suis rendu compte que parfois, tout à l'heure, j'étais en train de faire l'éloge de l'argumentation. C'est ma structure, c'est ma colonne vertébrale.
Vous êtes professeur, vous êtes député, vous argumentez.
J'argumente, j'ai toujours essayé d'argumenter dans la mesure du possible. Et puis je me suis rendu compte aussi qu'il y a des fois où on ne peut pas argumenter. La seule chose qu'on peut essayer de faire, c'est de montrer, de décrire, de raconter, de chercher les mots pour qualifier les choses, pour les nommer. Et j'ai compris, enfin, après beaucoup de temps, qu'est-ce que Camus a voulu dire un jour où il dit la chose suivante. À force de mal nommer les choses, on ne fait qu'augmenter la quantité de souffrances et de désordres qu'il y a dans le monde.
On ajoute au malheur du monde.
Non, on ajoute, oui.
Exactement, Michaela.
Et ça, c'est quelque chose, j'ai toujours senti cette phrase d'une justesse absolue. Et petit à petit, j'ai compris que l'effort, pour moi, le plus important, c'est que la raison de vivre, c'est chercher les mots pour essayer, dans la mesure du possible, de nommer de façon juste les choses. Et parfois, on a besoin des mots différents. Parfois, les mots de l'argumentation, parfois les mots de la passion. Et donc aussi, avoir une palette d'écriture différente. Parce qu'il y a des choses sur lesquelles on peut mener une argumentation.
Prendre des positions.
Prendre des positions. Et il y a des choses qu'il faut simplement essayer de toucher.
Alors, ce qui me vient, Michaela Marzano, donc vous-même, vous argumentez, vous êtes passé par la littérature, vous avez cité Camus. Camus, il ne nomme pas forcément les choses au sens où il faut les dire avec justesse, mais ça ne passe pas forcément par le fait de nommer. La première phrase de L'Étranger, « Aujourd'hui, maman est morte ». Et puis après, suit une étrange absence de souffrance en apparence. Est-ce que pour vous, cet « Aujourd'hui, maman est morte », c'est aussi un acte à la fois littéraire, ça a scandalisé, c'est aussi un acte moral, un acte qui nous force à nous mettre dans une situation, par un geste de langage inédit. De même que là, vous-même, vous prenez la première personne, presque impensable, de votre propre mère. La littérature permet d'affronter aussi des indices par des détours, pas seulement nommés comme ça.
C'est vrai. En même temps, en disant « Aujourd'hui, ma mère est morte », il nomme. Et qu'est-ce qu'il nomme ? Il nomme.
Il dit
la perte qui, de toute façon, reste une perte que nous abordons presque tous. Enfin, il y a des fois où parfois il y a un enfant qui précède la mort de ses parents. Mais la perte de sa mère, de la mère, et la perte de celle qui nous a mis au monde. C'est la raison pour laquelle
oui,
nous sommes
mais,
là.
Bien sûr, mais vous voyez bien, Michaela Marzano, oui. qu'il le dit sur un ton froid qui a beaucoup surpris. Il le dit comme Kafka dans son journal du 1er septembre 1914 dit « La France a déclaré la guerre à l'Allemagne, cet après-midi, piscine ». C'est-à-dire qu'en fait, il y a un détachement de la littérature qui fait ressortir peut-être encore plus, mais
oui.
qui d'abord surprend. Aujourd'hui, maman est morte, bon, et aujourd'hui, je suis allé au cinéma.
Oui, et c'est la grande littérature, celle de Camus, celle de Kafka. Enfin, c'est d'ailleurs parmi mes auteurs préférés parce qu'ils arrivent par l'étonnement à faire bouger quelque chose. Mmh. Après, chacun a sa propre langue et sa façon de nommer, de suggérer, d'éloigner. Moi, je n'ai pas une écriture froide. Enfin, je crois. Mon mari Jacques, il dit toujours que c'est aussi la différence culturelle entre la France et l'Italie, c'est qui est toujours possible. Mais en même temps, je pense que quand on est confronté à cette écriture qui déroute et qui nous place face à l'événement, eh bien, c'est ça que je voudrais, c'est ça que je recherche. Je voudrais tellement être capable moi aussi de placer face à l'événement.
En tout cas, je crois que vous le décrivez très bien, Michaela Marzano. Je vais quand même me permettre encore une passerelle. J'ai dit un peu vite, parce que je n'avais pas encore lu le roman, qu'il était question d'amour, parce qu'il est dans le titre, et que par ailleurs, vous parlez du genre. Mais est-ce qu'il y a une passerelle entre cette imagination de la douleur maternelle, et puis quand même ces dites théories du genre, que vous déconstruisez avec précision et calme d'ailleurs, dans votre livre « Papa, maman, le genre et moi ». Il y a quand même maman là aussi. Est-ce que vous êtes en train de dire, finalement, la violence n'est pas là où vous croyez? Ceux qui caricaturent les théories dites du genre, ceux qui disent un papa, une maman, en fait, ils réduisent, ils écrasent. Et il faut justement réfléchir et puis entrer dans l'expérience.
Il faut rentrer dans l'expérience d'une part et d'autre part aussi dans la précision conceptuelle. Parce que là, moi, ce qui me gêne énormément, et ça passera pas. Il n'y a rien à faire, il y a des débats où on continue à tout mélanger, bah justement, on brouille les repères. Souvent, on reproche à ceux et à celles qui travaillent dans les domaines du genre de vouloir brouiller les repères des enfants, mais en fait,
c'est l'inverse,
c'est
peut-être.
Plutôt, selon moi, l'inverse qui se passe, parce que quand on n'est pas capable de distinguer de façon précise le concept des différences des sexes, du concept d'identité des genres, du concept des stéréotypes des genres, du concept d'orientation sexuelle, du concept des pratiques sexuelles, et qu'on fait comme si c'était exactement la même chose, on fait passer un message qui est, selon moi, extrêmement dangereux. Moi, j'entends encore aujourd'hui quelqu'un soutenir que on enseignerait qu'on peut choisir son propre genre et qu'on pourrait changer de genre tous les jours. Mais de quoi sommes-nous en train de parler? On est, d'une part, on choisit rien du tout. D'autre part, hélas, dans la vie, comme la plupart des choses. Et d'autre part, on n'échange pas au fur et à mesure que le temps passe parce que l'identité s'impose à nous. Parfois, dans la droite ligne de notre différence sexuelle, dans la plupart des cas, mais il y a aussi certains et certaines personnes qui sont obligées de faire face à leur propre corps comme étant une prison par rapport à l'identité qui, elle, est quelque chose de perçu de façon profonde, enracinée et durable, mais dès le départ. C'est pas quelque chose que l'on change tous les jours comme une robe.
Ce que vous dites aussi, Michaela Marzano, et ce que vous venez d'entendre dans ce que vous venez de rappeler, c'est que, au fond, on oppose très brutalement une sorte de corps qui serait une essence naturelle, et puis une identité sexuelle qui serait construite. C'est vrai qu'il y a des signes du féminin, il y a des signes du masculin dans nos sociétés. Et on dit, voilà, il y a des gens qui sont du côté du construit, des gens qui sont du côté de la nature. Mais ce que vous dites, c'est que finalement, notre corps nous impose une nature un peu plus compliquée que ça, notre psychisme aussi. Et le discours social, il faut juste qu'il soit juste avec ça, finalement. Qu'il soit ajusté à nos vies.
Oui, vous avez parfaitement raison. C'est-à-dire, le problème philosophique derrière ces querelles, c'est la tendance à vouloir opposer nature et culture. Il ne s'agit pas du tout de les opposer. Il s'agit juste de distinguer ce qui relève de la nature du biologique, de l'organique, ce qui relève de l'acquis, et puis ce qui relève aussi de sa propre expérience.
De la nature de quelqu'un, pas voilà, de la nature en général.
Absolument, de sa propre spécificité, de sa propre subjectivité. Là où on présente la position, par exemple, de Judith Butler en la caricaturant comme si c'était quelqu'un qui voulait, on ne sait pas, tout détruire. Alors, pour le dire très simplement, comme j'écrirais dans un journal, quel est le but de la plupart des études de Judith Butler? C'est celle d'essayer d'éviter que quelqu'un d'autre qu'elle puisse vivre ce qu'elle a vécu. Or, qu'est-ce qu'elle a vécu? Dit très, très, très simplement, c'était une fille que, dès le départ, commence à se rendre compte qu'elle n'est pas attirée par des garçons, mais par des filles. Mais étant donné que la norme nous dit qu'une fille, en tant que fille, pour être reconnue fille, doit être attirée par des garçons, commence à se poser la question de savoir, suis-je réellement une fille?
Comment puis-je exister socialement? Comment puis-je vivre socialement ce que mon corps et mon psychisme m'amènent à vivre? Absolument. Et non pas par un choix social, justement, Absolument. Mais par une sorte d'expérience qui s'impose à moi. C'est-à-dire, au fond, ce que vous dites, Michaela Marzano, c'est que on oppose une nature à un corps, une vision du corps à des gens qui n'ont jamais rien dit d'autre chose, qui sont aussi dans l'expérience de leur corps, précisément.
Absolument. C'est absolument ça, d'ailleurs.
Vous partez toujours de l'expérience du corps, finalement, Michaela Marzano. Vous-même, en tout cas.
En tout cas, moi,
là, je
oui.
parle de vous, pas des théoriciens en général, mais vous-même, vous avez travaillé, donc, sur l'anorexie, ouais. sur la maternité, sur la fin de vie. Finalement, pour vous, la pierre de touche. C'est pas justement nature et culture, c'est le corps humain, c'est la complexité du corps humain.
C'est la complexité du corps humain qui est la pierre de touche de la fragilité de la condition humaine et de la finitude de la condition humaine. Et c'est pour ça que je trouve, je sais pas si les qualifier de bizarres ou navrants, les attaques de ceux qui disent, vous, les théoriciens du genre, ils m'indiquent, vous êtes dans l'abstrait, vous oubliez les corps. Alors là, on s'est dit, attendez, de qui sommes-nous en train de parler? J'ai part du corps. J'ai par des limites du corps. Toujours, c'est les points de départ.
Est-ce que pour vous, l'éthique, c'est avant tout ce qui, disons, vise à réduire la souffrance des humains?
C'est contrecarrer l'extrême fragilité de la condition humaine. Mais ça, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Habermas. C'est une formule que j'ai lu.
Vous êtes d'accord avec lui?
Sur ces points-là, complètement. Contrecarrer, ce qui ne veut pas dire effacer la fragilité de la condition humaine, non. Mais la contrecarrer, donner des instruments pour vivre avec.
Et quand il y a des contradictions dans cette volonté, donc par exemple dans le cas de l'euthanasie dont nous avions parlé au début, ou disons la fin de vie avec une des positions qui serait celle qui défendrait l'euthanasie, il y a une contradiction. Il y a quelqu'un qui demande une solution pour la souffrance, qui serait d'interrompre le traitement. Un autre qui dit « je veux encore essayer tel soin » ou en tout cas le geste ne peut être qu'un double effet, comme on disait, c'est-à-dire interrompre le traitement et non pas vous donner cette mort que vous demandez. cette contradiction pour vous, elle est quand même compatible avec, enfin, c'est le vrai sujet de l'éthique.
Alors, c'est un des sujets de l'éthique. Et en même temps, je ne suis pas sûre qu'il y ait vraiment une contradiction. Parce que, enfin, au moins, en ce qui me concerne, dans le sens où je crois qu'il faut faire très attention à ne pas répondre à une demande par un geste. Je ne suis pas en train de dire quelqu'un.
C'est pas un automatisme.
C'est pas un automatisme. Mais c'est une chose de dire, je ne réponds pas par un geste à une demande, je vais mourir, donc je te tue. Ce n'est une autre de ne pas prendre en compte la souffrance.
Absolument.
Et de ne pas entendre,
ne pas écouter la parole, toujours.
Absolument.
La parole. Aussi.
C'est toujours la parole et c'est toujours la subjectivité. C'est-à-dire être sensible à la présence de l'autre, être touché par sa présence et faire en sorte que sa présence ne soit jamais effacée.
Est-ce que ça, Michela Marzano, c'est le rôle du philosophe dans l'Europe d'aujourd'hui de le rappeler, d'être sensible à la présence des corps de ces migrants sur nos plages, dans nos villes? Vous avez été député en Italie, c'est quand même un problème qui a fait beaucoup pour l'explosion politique de l'Italie. On peut craindre qu'il ébranle toute l'Europe. Comment traduire politiquement cette sensibilité sans être accusé de sensiblerie et au contraire en disant c'est les conditions du vivre ensemble, c'est les conditions de la paix pour éviter la guerre?
Alors, moi, je pense que là, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, en certain moment, j'ai compris que mon rôle n'était pas au sein du Parlement, mais était à l'université. Je pense que le point de départ est l'éducation. Il faut revenir là. D'ailleurs, moi, j'ai dit toujours, je ne quitte pas la politique, je quitte cette façon.
Cette façon-là de faire
la politique. Je retourne à faire la politique dans la façon qui est la mienne. C'est-à-dire en faisant œuvre de transmission. Apprendre aux étudiants à entendre, à écouter l'altérité, à la reconnaître, à ne pas vouloir l'effacer. Nous vivons dans une société où rien n'est plus compliqué que l'écoute. Et pourquoi? Parce que écouter réellement signifie accepter la possibilité que la parole de l'autre puisse me remettre en question et puisse remettre en question ma propre identité. Or, c'est ça mon message.
Alors, on comprend que l'engagement philosophique passe par là, passe par quand même, j'imagine que vous allez continuer à écrire dans certains journaux, le fait de, non pas de renoncer, mais en tout cas de ne plus pratiquer la parole du Parlement. Est-ce que pour vous c'est ce choix personnel, mais est-ce que ça n'est pas aussi un signe que certaines choses sont devenues difficiles dans la politique européenne?
C'est aussi parce que certaines choses sont devenues très compliquées dans la politique européenne. En même temps, c'est parce que je pense que chacun de nous doit à un moment ou l'autre comprendre là où il peut vraiment avoir incidé, là où il peut laisser une petite trace. Bien sûr, je suis très fière, et je l'ai dit, des batailles, de mes engagements au sein du Parlement. Un jour, quand on ira regarder comment l'évolution de la loi sur les unions civiles pour les couples homosexuels, quand on ira comprendre l'évolution de la loi sur les consentements des patients, etc., on verra quelles sont mes interventions. Tout ça, ça reste. Mais en même temps, il faut aussi que je fasse ce que je pense être capable le mieux de faire. Et ce que je pense être capable le mieux de faire, c'est vraiment d'enseigner, de transmettre ça à mes étudiants. J'adore enseigner.
Merci beaucoup, Michela Marzano.
Merci à vous, Frédéric Worms.
Matière à penser, notre première rencontre cette semaine avec des philosophes dans la cité. Ce soir avec Michela Marzano et ses différentes facettes de son engagement dans la cité. Avec aussi Frédéric Changenet, Sandrine Chaperon, Catherine Donnet, Lino Lima, Anne-Pascale Desvignes, Frédéric Worms. Qui vous donne rendez-vous demain avec le philosophe roumain Ciprian Mihali.